Chapitre 7e. La danse des bals. Mais Martin Huma, avant de me raconter cet événement quelques jours plus tard, tenait le matin même de l'affaire à en tirer le plus de parti possible, malgré le canard intempestif. Lui, qui était si prudent quand il organisait une campagne dans laquelle ses hommes se risquaient, commettait parfois des imprudences absolument déconcertantes. Il avait bien recommandé à ses hommes de ne pas quitter la propriété, de ne pas sortir du parc, de ne pas s'engager dehors, enfin, sous aucun prétexte. Tout le monde avait ponctuellement obéi. Il n'y eut qu'un homme qui osa enfreindre cette consigne. Cet homme fut Martin Huma. Quand il eut vu tout son personnel au complet, qu'il se fut rassuré sur le sort de ses hommes, le roi des détectives leur dit, après les avoir félicités, « C'est bon, mes amis, maintenant allez vous reposer. » Toutefois, il fit organiser un roulement de services et de sentinelles pour garder la villa. Puis il fit signe à Prosper et à Philippe. Et au grand étonnement de ses hommes, soudain anxieux, il sortit à pas pressés du jardin et s'élança sur la route qui conduisait au petit bois du Coulant. Il s'était muni d'un gros bâton comme si ce fût un sabre et qu'il menait un escadron à la charge. Naturellement, Prosper et Philippe suivaient leur chef. Il ne se serait pas permis de soulever la moindre objection, de faire la plus petite observation. Mais dans le coup d'œil que ses deux camarades échangèrent, ils se dirent qu'ils avaient le pressentiment que leur chef s'engageait sur une mauvaise voie et marchait vers une aventure fâcheuse. C'était à leurs yeux une raison majeure pour ne pas l'abandonner, pour le suivre, l'encadrer. D'ailleurs, il ne leur déplaisait pas de se lancer ainsi vers un inconnu que tout faisait prévoir dramatique et sensationnel. Maintenant, ils avaient deviné l'idée du chef. Ils ne le suivaient plus, mais l'escortaient, se hâtant avec lui sur la route. On allait aux grottes. Aux grottes dans lesquelles le commandant établissait son quartier général quand il opérait dans ces parages. En effet, bientôt, il fallut grimper la petite côte assez raide, toute couverte d'arbres qui se penchaient sous la force du vent et tenaient leur partie dans ce merveilleux orchestre de la forêt. Martin Huma s'arrêta net. « Stop !» fit-il à ses lieutenants. Philippe et Prosper goûtèrent grandement ce bonheur de s'arrêter un moment. Ils avaient grand besoin de se reposer, ne fût-ce que quelques minutes, pour délasser leurs membres, reprendre haleine. Martin Huma les menait d'un train d'enfer. Lui, tranquillement campé sur ses longues jambes, semblait aussi frais, aussi calme que s'il quittait un fauteuil de repos. Il ne transpirait pas, il ne souffrait pas. Très posément, il tira son inséparable blague à tabac et roula une cigarette. Il alluma sa cigarette, tout en regardant du coin de l'œil, très narquois, ses deux lieutenants qui faisaient tous leurs efforts pour lui cacher leur fatigue. « Eh bien ?» leur dit-il malicieusement. « Vous ne grillez pas une cigarette ?» Prosper et Philippe sortirent leur tabac et se mirent à fumer. Il y eut un moment de silence. Puis Martin Huma prit la parole. « Il doit y avoir un grand désarroi parmi nos ennemis. Une débandade formidable. Où se sont-ils de nouveau réunis ? À Fontainebleau ? Je ne le crois pas. Venir là en nombre, c'est exciter la curiosité, éveiller les soupçons. Et enfin, faciliter la besogne des agents que nous sommes censés avoir dispersés tout autour de leur villa pour épier. Cependant, il est absolument certain que les chefs de cette bande ont donné à leurs hommes un point de ralliement. Nous croyons depuis longtemps, n'est-ce pas, que le quartier général de nos ennemis se trouve aux grottes que nous avons, dans le but de constater le fait, déjà exploré. Oui, chef. Bon, nous allons donc y aller. » Martin Huma dit cela tout tranquillement, comme si c'eût été un simple but d'excursion, un terminus de touristes que ces grottes. Cependant, Prosper crut devoir faire une objection. « Ne croyez-vous pas, chef, que nous commettons là une grosse imprudence ? Pourquoi ? Ces hommes sont non seulement furieux de leur défaite et désireux de se venger, mais ils sont encore très nombreux. Et puis après ? Nous allons nous jeter dans la gueule du loup. » Martin Huma regarda ses lieutenants. Dans ses yeux, une flamme froide passa. « Donc, dit-il, j'y vais seul. » Et il se remit en marche, sans plus se soucier de ces hommes que si jamais ils n'avaient existé. Mais Prosper et Philippe s'étaient, en même temps, remis à suivre leur chef. Du moment qu'il allait au-devant d'un grand danger, il fallait plus qu'en toute autre circonstance ne pas l'abandonner. Maintenant ils collaient, selon une expression nouvelle de sport, ils collaient au pas de leur chef. Mais leurs yeux cherchaient à droite, à gauche, à travers les branches, les taillis, parce qu'à tout instant ils s'attendaient à entendre la détonation d'un revolver et à être salués par un coup de feu parti d'un fourré où certainement un bandit de garde devait se tenir en embuscade. « Peine inutile, leur dit Martin Huma, qui, sans détourner la tête, avait deviné leur manège. « Peine inutile, ils n'y pensent même pas. Ils sont trop affairés par eux-mêmes et nous croient trop tenus, nous aussi, par l'aventure, pour s'imaginer que nous aurons seulement l'idée de venir les relancer dans leur repère en ce moment. En effet, Martin Numa et ses lieutenants ne furent nullement inquiétés. Ils n'essuyèrent aucun coup de feu et n'aperçurent aucune sentinelle. Peu après, ils arrivaient dans les fourrés qui avoisinaient les grottes. Martin Numa fit un signe avec ses hommes, il se baissa, se fit petit. « En Apache !» fit-il en riant. « Les détectives deviennent Apaches !» Mais il corrigea aussitôt. « Apache vrai, qui se lance sur le sentier de la guerre !» Lentement, avec précaution, tous trois se faufilaient de taillis en taillis, gagnaient du terrain, se rapprochaient peu à peu des grottes. Aux alentours des grottes, personne. « Bizarre !» fit Martin Numa. « Comment se fait-il qu'on ne les garde pas ?» Les bandits ont choisi un autre quartier général ? Cela m'étonnerait. Ils avancèrent encore. Tout à coup, des bruits de voix arrivèrent à eux, confus encore, des cris, des jurons, que le vent coupait, que le bruit de la forêt éteignait par moments. « Ils sont là !» fit Martin Numa. « Ils sont là !» On les entend, ils crient. Et comme des chevaux au râtelier, quand le foin manque, comme des larrons au poste, quand ils sont devant le commissaire, ils se disputent violemment. Les voix augmentèrent. Les cris devinrent plus violents. « Ils vont se battre, » fit Martin Numa. « Ils vont s'entretuer. Voilà qui simplifierait singulièrement notre besogne. » Puis deux ou trois hommes sortirent des grottes et s'arrêtèrent à l'entrée, furieux. « C'est toujours la même chose, » crièrent-ils en se retournant vers l'intérieur. « Oui, toujours la même chose. » »« Chaque fois, nous sommes battus, roulés. » »« Chaque fois, vous trouvez-vous, le chef, que ça ne pouvait être autrement. » »« Vous organisez admirablement, selon vous, des attaques. »« Elles manquent régulièrement. » « Au rocher, nous sommes battus. À la villa, deux camarades sont pris. Aujourd'hui, c'est une débâcle. » Un des bandits, en riant, s'écria. « Cependant, je dois déclarer que vous avez remporté une victoire. Oui, vous avez arrêté Martin Numa, vous l'avez pris. Oh, vous le tenez bien enfermé dans votre maison de Melun. Ça y est, le roi des détectives est votre prisonnier. Seulement, il y a un mais, un tout petit mais. Seulement, ce roi des détectives n'est pas Martin Numa. À part cela, c'est parfait. » Les trois hommes qui l'accompagnaient éclatèrent de rire. L'orateur reprit. « Eh bien, je vous déclare que nous en avons assez, mes amis et moi, de suivre vos fantaisies. Nous estimons que nous avons mieux à faire qu'à poursuivre une vengeance qui vous échappe et qui sera d'un très maigre profit. Nous voulons des affaires qui nous rapportent de l'argent et non pas seulement des satisfactions d'amour-propre. Alors nous donnons notre démission. Nous vous abandonnons. » Cet orateur et ses compagnons s'en allèrent, sans faire claquer la porte, parce qu'il n'y en avait pas, mais ils partirent furieux en parlant encore entre eux. Martin Numa écoutait avec le plus grand intérêt. Il avait assisté à cette scène et n'en avait rien perdu. Elle comportait à ses yeux une importance capitale. Elle venait de lui montrer que la discorde régnait au camp ennemi. Il laissa ses hommes s'éloigner. Devant lui, ils passèrent sans se douter de sa présence, le frôlant presque, mais tellement furieux et plein encore de leurs ressentiments, qu'ils ne pouvaient penser à regarder autour d'eux, si quelque oreille écoutait, si un œil voyait. Martin Numa, quand ils se furent éloignés, se remit en marche vers les grottes. Mais à ce moment, seul Prosper le suivait. Quant à Philippe, il venait de s'élancer sur la piste de ces bandits dissidents. Martin Numa s'était muni d'un bâton solide pour relever les ronces et les épines qui fermaient le chemin des grottes. Mais ce fut une précaution inutile. Les ronces étaient relevées, le chemin praticable. Martin Numa se trouvait maintenant au commencement de ce chemin. Il prêta l'oreille, dressa la tête, regarda. Vraiment, à ce moment, il donnait l'impression d'un lion qui flaire l'ennemi et qui se prépare au combat. Des grottes venaient encore des bruits de voix. Évidemment, la dispute continuait. Alors Martin Numa bondit, sans se soucier de celui qui seul maintenant le suivait. Et en quelques pas rapides, il fut à l'entrée des grottes. « Rendez-vous » cria-t-il, « bas les armes !» Mais des coups de feu coupèrent ses paroles. Un homme, après le départ des dissidents, s'était avancé jusqu'à la porte des grottes et se tenait là, voulant sans doute éviter la discussion, ne pas prendre parti pour l'un ou l'autre camp ou surveiller. Il aperçut tout à coup le roi des détectives au moment où il entrait dans le chemin. Le temps de tirer son revolver et de faire feu sur lui, il donnait l'alarme. Martin Numa ne broncha pas. « Allons, » dit-il, « tes balles ne sont pas bonnes, vois les miennes. » Il tira. Un cri de douleur suivit son coup de feu. Alors il se tourna vers le groupe hurlant et gesticulant que son arrivée soudaine semblait avoir terrifié. Il dirigea sur lui ses revolvers qu'il tenait à chaque main. « Rendez-vous » dit-il. Mais il ne fut pas écouté. Il y eut un mouvement si prompt, si subit, que Martin Numa en demeura tout surpris. Les bandits semblèrent se perdre dans les rochers. Ils n'eurent qu'à se laisser tomber à terre et ils disparurent. Les rochers les abritèrent contre les balles de Martin Numa. Rampant, se glissant, ils gagnèrent, derrière cet abri invulnérable, le fond de la grotte. Là se trouvait une cheminée, c'est-à-dire un couloir qui faisait communiquer cette salle avec le dehors. Martin Numa connaissait aussi cette issue. Il comprit que les bandits lui échappaient, mais un seul demeurait en face de lui. Hardi, courageux, levant la tête et regardant bien en face le roi des détectives. C'était le commandant. C'était le roi des bandits. Dans un ricanement de rage, cet homme dit à Martin Numa « Tu as vraiment de l'audace. Tu es un homme un peu trop poli. Déjà tu viens me rendre ma visite, mais cette fois nous voilà bien face à face. À nous deux, Martin Numa. Enfin, à nous deux. » Il sauta sur un rocher et se mit à peu près à la même hauteur que le roi des détectives. Il leva son revolver. « Nous n'avons, n'est-ce pas, besoin de témoins ni l'un ni l'autre dans ce duel à mort. » Il visa le roi des détectives et fit feu. Un coup parti, Martin Numa ne bougea pas. Un second coup retentit, Martin Numa se mit à rire. Il semblait invulnérable et protégé par quelque puissance magique. Tranquillement, il regardait son ennemi faire feu comme s'il avait eu lui toute assurance qu'aucune des balles du revolver braqué sur lui ne pouvait l'atteindre. Nous avons tous vu au cirque, aux séances de prestidigitation, le pseudo-sorcier tendre un pistolet chargé devant les spectateurs et se faire tirer dessus par le plus habile tireur de l'honorable société sans jamais être touché. En ce cas, le prestidigitateur connaît son arme parfaitement truquée et il sait que la balle peut d'autant moins le frapper qu'elle se trouve déjà dans sa manche ou dans son gousset. Mais Martin Numa ne pouvait pas compter sur cela. Le revolver dont se servait son ennemi n'était pas une arme pour prestidigitation. Elle n'était nullement préparée. C'était une arme de combat. Elle avait fait grandement ses preuves tout récemment. Et cependant, Martin Numa regardait le canon de cette arme braqué sur lui et il riait, se moquait en quelque sorte du coup de feu. Plus tard, Martin Numa me dit « Si vous m'aviez vu à ce moment, mon cher Courville, vous m'auriez trouvé absolument merveilleux, étonnant, fantastique. J'en suis certain. Je me tenais en face de mon adversaire, raide, immobile, souriant, et j'essuyais son feu avec un calme absolu. Belle imprudence. Et je tenais en profond mépris chaque coup qui m'était destiné. Il paraît en effet que Prosper, qui assista à cet étrange duel, était plus impressionné que vous. C'est lui qui tremblait pour vous. Je m'en doute. C'était une folie plus qu'une preuve de bravoure ce que vous faisiez en ce moment. Erreur, mon cher, c'était de la prudence, de l'extrême prudence. » Il insista même. C'est-à-dire qu'agir tout autrement, c'était commettre la pire des folies. « Comment cela ? » demandai-je, étonné. « Se tenir immobile, bien en face, devant le canon de son rival, lui servir de cible, c'est de la prudence. »« Absolument. » Souriant, il ajouta. « On est héros à bon compte dans ces conditions-là. Et comme je n'ai aucune vanité, je vais vous révéler mon secret. Vous pourrez l'employer à l'occasion. Vous vous en trouverez toujours très bien. Voici, mon cher ami, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Le courage, en quoi consiste-t-il ? À braver le danger. Mais quand il n'y a pas de danger, quand il n'y a rien à braver, comment appelleriez-vous cela ? Ne cherchez pas, il n'y a pas de mots. Or, j'étais sûr de n'avoir pas de danger à braver. Je ne veux pas voler les lauriers du courage. Cependant, l'ennemi tirait sur vous. Oh oui, et souvent, et beaucoup. Alors ? Mais il tirait si mal, j'en avais pitié. Voyons, vous plaisantez toujours. Nullement. J'ai promis de révéler le secret de ma merveilleuse bravoure. Le voici. Vous savez que pour bien tirer, au revolver surtout, il faut une main absolument calme, une main tout à fait sûre, qui ne bouge pas, qui ne tremble pas. Il faut n'avoir pas de nerfs, vous le savez. Parfaitement. Or, mon ennemi était tout à fait le contraire de ce que réclame le manuel du parfait tireur. Tout d'abord, la surprise que lui causait ma vue provoqua chez lui un ébranlement qui déséquilibra du coup tout son être. La rage, la fureur l'aveuglaient. Il ne visait même pas. Sa main se crispait sur la crosse de son arme, la serrait à la briser. Ceci est absolument contraire à tous les principes de tir qui recommandent de caresser la crosse du pistolet, de la tenir comme on tiendrait un petit oiseau, serrée pour qu'il ne s'échappe pas, mais ne pas l'étouffer. Or, avec son revolver, mon adversaire aveuglé tendait vers moi le poing chaque fois qu'il pressait la gâchette comme s'il voulait, en même temps que la balle, m'envoyer un coup de poing. Ce n'était vraiment pas le moyen de bien viser. Et comme il lui tardait, en surplus, de rejoindre ces hommes qui, sans aucun scrupule, l'avait abandonné à son malheureux sort, il se dépêchait de tirer toutes les cartouches de son revolver. Il voulait vous en arroser, comptant sur le hasard, sur une balle. Et je voyais autour de moi, en haut, en bas, sur les côtés, les rochers s'étoiler de balles. Mais moi, au milieu de ce panache de plomb, je demeurais debout. Martin Luma ajouta en souriant, « Je me tenais raide, immobile, servant de cible. C'était très beau, superbe. Mais pour rien au monde, je n'aurais changé de tenue. Je n'aurais fait un mouvement. Plus je servais de cible, moins je devais être touché par cet homme qui frémissait de rage, qui ne voyait plus clair, et dont la main fébrile tremblait. Voilà tout le secret de ma tenue héroïque, de ma jolie bravoure. Je ne pouvais faire autrement. « Oui, lui dis-je, oui, je sais. Quand vous êtes brave, vous ne pouvez jamais faire autrement. C'est toujours malgré vous. Vous n'avez aucun mérite. Et vous vous applaudiriez vous-même si par hasard il vous arrivait au milieu d'une de ces folies de courage de pouvoir enfin vous sauver, prendre la poudre d'escampette. C'est peut-être vrai. Seulement, vous oubliez de dire... comme ici c'était le cas, que votre ennemi pouvait très bien, par hasard, oh, par le plus grand de ces hasards que vous niez, vous allouer malgré tout, tout en vous visant mal, une petite balle dans la tête. Pouh ! C'eût été maladresse. Un ricochet peut-être, mais vous l'auriez bel et bien reçu quand même. Oh, mon cher Courville, dit alors Martin Numa, m'arrêtant là, c'est tout bonnement un des petits désagréments du métier, on n'a pas à en tenir compte. C'était ainsi que chaque fois ce héros parlait de lui-même. Il n'avait jamais fait acte de bravoure, c'était tout simple, tout logique. Cependant, cette fois dans la grotte, il essuya les balles de son adversaire avec un sang-froid extraordinaire. Il pouvait nous dire ensuite qu'il était sûr de ne pas être touché, personne à sa place n'eut ce courage calme, cette tranquillité, cet empire sur soi, que cet homme admirable montra à ce moment.